Veillon.
Simplement, pour ne pas commenter ce qui vient déjà d'être dit, je donnerai juste une orientation sur ce qu'ont fait les Japonais, les entreprises japonaises, qui sont confrontées au même type de situation, qui sont plus fortes et plus présentes sur la Chine, puisque leur part dans les échanges, enfin des deux côtés d'ailleurs, hein, la Chine et le Japon sont conjointes réciproquement, je crois, leur premier partenaire économique. Eux ont tout fait pour être plus forts et plus unis vis-à-vis du marché chinois. Donc ils ont un club d'entreprises autour de Shanghai qui est très actif. Et ils ont créé un organisme un petit peu particulier qui, si je me rappelle bien, s'appelle le Japan-China Investment Promotion Organization. Voilà, je crois que c'est ça, à peu près. Et qui sert un peu à la promotion, mais qui sert surtout à distiller et essayer de régler les différends qui peuvent exister entre les entreprises chinoises, entre les entreprises japonaises et leurs partenaires chinois. Alors probablement, leur culture et nous, on vit avec le droit romain depuis des siècles, donc forcément on a des réflexes qui sont peut-être pas les mieux adaptés par rapport à ces difficultés. Et eux ont une pratique, semble-t-il, à l'intérieur de cet organisme qui leur permet au moins de chercher et parfois de trouver des solutions à ce genre de différends. Il faut savoir que la joint venture, ça n'a pas été un souhait des entreprises occidentales quand elles sont allées en Chine, c'était obligatoire. Mais c'est obligatoire aussi dans les Émirats, c'est obligatoire dans énormément de pays. Mais on sait que l'entreprise, c'est un corps vivant. Tout ça évolue, les conditions changent. Bon, je partage l'avis de M. Larson, il faut être attentif, il faut être malin.
Voilà, je crois que c'est essentiel, il faut être attentif, il faut être malin, il faut savoir qu'effectivement, tout ne roule pas toujours comme ça devrait rouler, et donc faire très attention. Alors, maintenant, on va poser une autre question qu'on se pose souvent aussi, et sur laquelle je crois, là vous n'êtes pas d'accord. On dit souvent, mais comment se fait-il que les entreprises françaises soient si peu présentes en Chine? Alors quand on pose la question, automatiquement, il y a plein de gens qui vous disent, mais si, c'est déjà bien ce qu'on fait. Alors voilà, peut-être, je vais revenir à vous, monsieur Veillon, parce que vous êtes...
Alors, si vous voulez, bon, tout est relatif, effectivement, et tout dépend par rapport à quoi on compare. Il y a des réussites françaises éclatantes en Chine. Il y a des réussites qui auraient pu l'être encore davantage. Quelles sont les entreprises qui ont réussi? C'est celles qui ont compris le plus tôt que la Chine était une source de productivité, mais qu'elle était également une source de croissance et qu'elle était ou serait une source d'innovation. Les entreprises qui ont compris ça et qui ont compris ça très tôt, se sont engagées et se sont engagées sous une forme d'investissement dont le retour n'était pas complètement assuré. On peut prendre trois exemples. Je crois que les entreprises les significatives les plus anciennes en Chine, c'est Honda, donc japonais, Schneider et Rhône-Poulenc. Bon. Toutes ces entreprises y sont allées, alors avec des joint ventures, parce qu'ils n'avaient pas moyen de faire autrement, mais avec des gestes et une posture qui montrait leur engagement, c'est-à-dire Rhône-Poulenc a créé un laboratoire, a acheté un nombre d'hectares assez gigantesque, a fait une très bonne opération immobilière d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de tout ça, c'est devenu un quartier résidentiel alors que c'était un quartier d'atelier assez rapidement. Donc ils ont montré leur engagement. Alors, je ne voudrais pas pasticher M. Julien, mais Descartes a dit il faut savoir saisir ce qui commence. Les entreprises qui ont réussi le mieux, ont su saisir ce qui commençait et ont su le voir avant les autres. Alors, ensuite, dans leur façon de se développer, elles ont beaucoup fait ça sur base de partenariats. C'est-à-dire le fait de devenir à 100% ou d'être unique opérateur dans un certain nombre de business est relativement récent. Elles ont créé des centres de formation, elles ont créé des centres de R&D. Elles ont beaucoup compté sur les grands comptes locaux et internationaux, et c'est de cette façon-là que progressivement elles ont réussi. Mais toutes ces entreprises ont maintenant 30 ans de présence en Chine. Les entreprises qui y sont allées plus timidement, ou moins, ou qui y sont allées pour faire du sourcing, ou qui y sont allées en commençant à installer quelque chose et sans le développer, ont en fait été handicapés, et ça je l'ai vu dans plusieurs grandes entreprises industrielles, par le problème des délocalisations. C'est-à-dire, oui, je vais être en Chine, oui, je veux bénéficier de... Je vois bien tout ce que ça peut représenter, mais j'augmenterai mes capacités chinoises quand mes capacités européennes seront saturées. Comme il y a un problème de prix sur le marché international, les produits ne se vendent pas, on ne peut pas saturer les capacités européennes. Et donc, on ne se développe jamais en Chine, et un jour, on constate qu'il y a un autre Chinois, avec éventuellement un autre partenaire occidental, qui est en train de vous dépasser, qui a un bien meilleur business que le vôtre, qui vous tue du point de vue des prix, et c'est terminé. Alors, cette réticence très forte à la délocalisation, qui est liée, en fait, parce que le problème, c'est pas la délocalisation, le problème, c'est le chômage, ou le taux de chômage dans nos grandes sociétés, ça a beaucoup ralenti les sociétés, ce qui fait qu'effectivement, on a un certain nombre de sociétés qui n'ont pas toujours des positions extraordinaires. D'autres pays, les Japonais ont bien réussi, parce qu'ils sont plus proches, c'est quand même plus facile, ils sont plus présents, malgré quand même un héritage historique un peu lourd, qui a été souligné ce matin, ils ont assez bien réussi. Les Allemands ont de fortes présences, mais parce que ce sont de très forts exportateurs. Voilà, donc, et je m'arrête ici pour...
Bien, monsieur Lefebvre, vous voulez absolument... Oui, allez-y.
Non, comme vous voulez.
Non.
Moi, j'ai juste un mot, quand je souscris à tout ce qui a été dit. On demande souvent pourquoi les Français font moins bien à l'export que les Allemands, etc. Mmh. On a 39 milliards de déficit, les Allemands ont, je ne sais plus, 200 milliards d'excédents. Il y a une grande différence. On parle au Sénat, c'est pour ça que je veux dire un mot. Et si mes souvenirs de droit constitutionnel sont bons, le Sénat représente essentiellement les provinces. Les Allemands ont des politiques régionales. L'Allemagne est un État fédéral, il y a des Länder, etc. Nous avons cette tradition issue qui vient de notre monarchie, etc., centralisatrice, etc., qui fait que nous avons une politique industrielle qui est nationale et qui s'intéresse donc aux grands champions nationaux. 75% de nos exportations vers la Chine sont le fait de grands groupes. 70% des exportations allemandes vers la Chine sont le fait de PME, alors que l'Allemagne n'est pas dépourvue de grands groupes, elle aussi, et qu'elle a la même monnaie que nous. Donc je crois qu'une des clés, peut-être, c'est de renforcer, qu'il y ait des politiques régionales. Je me demande, d'ailleurs, je n'ai pas lu le rapport in extenso, si ça n'est pas une des propositions du rapport Attali. Il faut qu'il y ait des politiques régionales, et les régions vont s'intéresser à leurs champions régionaux, naturellement, et les pousser. Ce qui n'existe pas encore beaucoup en France, où on s'intéresse aux champions nationaux, parce que c'est à Paris que ça se décide. Voilà.
Oui, la position des Français en Chine, bien sûr, elle est visible, mais ça va s'arranger, ça peut s'arranger, et puis elle reflète assez les problèmes que la France a à l'international, on s'en rend compte maintenant. On parle souvent du consommateur chinois, du fabuleux marché chinois. En quelques mots, parce qu'on commence à me presser, est-ce qu'il existe un consommateur chinois? Moi, je suis persuadée que non, d'autant qu'on citait tout à l'heure le chiffre des 200 millions de Chinois qui consomment comme vous et moi, pratiquement. Alors, peut-être Monsieur Zolber? Non, pas de consommateur. Alors, on se retourne, c'est Monsieur Larson.
Oui, donc il y a une pire. La segmentation n'est pas la même qu'en Europe. Si vous êtes dans les produits de luxe, c'est bien, parce que je crois qu'il y a plus de 10 millions de milliardaires chinois, donc vous pouvez vendre beaucoup de Ferrari. Je crois que c'est un marché plus gros que celui européen. Évidemment, la plupart des gens se concentrent sur ce marché des 150, 200, 250 middle class chinoises. Puis il y a des très pauvres. Bon, la conséquence est la suivante, quand même, très importante. Vous êtes un opérateur chinois dans l'automobile. Peut-être un jour, vous imaginez vendre des voitures de luxe, des voitures pour la middle class et la voiture à 2 000 $ du pauvre. Votre ambition va être de couvrir tous les segments du marché et ce n'est pas déraisonnable. Vous êtes dans le téléphone mobile, il faut que le gars au fond de la rizière aussi puisse l'avoir avec un abonnement très bas. Donc le problème des étrangers, c'est de savoir comment se positionner et quel est mon marché. Alors, certaines firmes donc se concentrent sur non seulement une partie de la middle class, mais certaines villes. Conquérir la Chine, c'est comme si conquérir le marché américain, on ne peut pas le faire en un jour. Donc là, il y a une stratégie régionale, locale. Je termine sur un point très important, ce n'est pas tout à fait l'idée de segmentation, mais c'est un rapport. Moi, je suis professeur de stratégie. Alors, c'est bien d'avoir une bonne stratégie, mais c'est mieux d'être sur un marché très porteur. Donc, pensez à ces nouvelles métropoles de l'Ouest chinois, qui étaient moins développées, et qui croissent, elles, à 10, 15, 18% par an, hein, selon les secteurs. Donc peut-être là, il y a des opportunités nouvelles, alors que le marché à Shanghai, à Pékin, à Canton est quand même un petit peu encombré. Hein. Donc il y a tous ces trésors à exploiter en Chine, différents segments, différents milieux, donc différents produits et services pour ces gens-là, et puis surtout différentes régions qui ont un look différent. Et puis il y a des régions où vous aurez un grand support du gouvernement. Ce que vous avez dit, monsieur, dans l'Ouest, ce que vous disiez à la fois, il faut être en Chine, c'est trois choses à la fois. C'est une opportunité extraordinaire de sourcing, c'est un marché et c'est une opportunité d'innovation. Ce que vous avez ajouté qu'on dit peu. Eh bien, si vous faites ça dans une région qui intéresse le gouvernement chinois, ils vont vous financer. Hein, donc, n'oubliez pas cette possibilité.
Il ne faut pas oublier que les Chinois sont en train d'investir de plus en plus dans le monde et qu'à partir de la Chine, vous pouvez vous aussi faire partie de la vague chinoise si vous travaillez avec les Chinois pour investir dans le monde. On a des exemples d'entreprises françaises qui ont conservé ou gagné des parts de marché dans les pays émergents à travers leur base chinoise. Je pense à Alcatel notamment. Hein. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, je pense que là, il va falloir que nous rendions...
Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer la parole à garder. Il nous reste 5-6 minutes avant de terminer cette table ronde. Donc, de passer la parole à ceux qui ont des questions et qui veulent poser des questions à nos intervenants. Bernard.
Oui, est-ce que je peux vous demander si les services des postes d'expansion économique français en Chine ont-ils une efficacité plus grande que celle qu'ils ont pu avoir dans d'autres pays beaucoup plus tôt ?
Ah oui, les postes d'expansion, les missions économiques, comme on les appelle maintenant, ont énormément changé au cours des 10 dernières années. Et vous avez des grandes disparités. Vous avez les pays, ça c'est aussi à travers de la politique française, vous avez les pays dont on s'occupe peu, hein, et puis les pays cibles. Alors les pays dont on s'occupe peu, tout ce qui est public est à l'avenant. Et parfois les missions économiques ne sont pas hyper brillantes. Et vous avez les pays cibles, où là, normalement, elles le sont. Et je vois comment travaillent les missions économiques de Pékin, de Shanghai, de Canton. Moi, je considère que ce sont des gens extrêmement performants, hein, vraiment. Alors maintenant, l'accueil des PME, il n'est peut-être pas à la hauteur de l'accueil des grands groupes. Ça, c'est l'éternel problème de l'administration. Ils sont en train de changer, ils essaient de changer, mais bon, voilà.
Alors comment est-ce qu'on peut faire changer ça, à votre avis ?
On est en démocratie. Il y a des choses qui peuvent passer par les courants politiques classiques, traditionnels. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des élections, il y a des ministères. Le ministère de tutelle des missions économiques, c'est Bercy. C'est Mme Idrac qui est ministre du commerce extérieur maintenant.
Lobbying et réseaux sociaux.
Ah, lobbying et réseaux sociaux. Et là, vous avez les opérateurs français qui sont installés en Chine, qui essaient de faire pression. Mais en France, l'administration est forte, est puissante. Et puis, il y a une chose, une dimension qui m'est venue à l'idée là avec votre intervention, M. Veillon. C'est vrai que les Japonais font chasse en meute, comme aime le dire Mme la ministre du... Voilà, Mme Lagarde. Mais les Européens essaient de chasser en meute. La Chambre européenne de commerce essaie de renforcer les liens entre les opérateurs européens et c'est le niveau minimum. Il ne faut pas espérer avoir des rapports de force qui nous soient avantageux avec les Chinois si on ne travaille pas au niveau de l'Europe. Et les Français ne travaillent pas assez au niveau de l'Europe.
Elle dit naviguer en escadre.
Naviguer en escadre. Ah oui, mais ça change.
On a dû lui dire que c'était trop guerrier.
Juste un petit complément.
Vous avez dit ce matin que les étudiants chinois étaient très performants et en 2 ans apprenaient le français parfaitement, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il en est ainsi ? Je sais que les rapports que vous pouvez avoir, les entreprises sont en anglais, bien entendu, je pense à 100% ou presque, mais qu'en est-il des Chinois et est-ce qu'ils apprennent le français ou comment ça se passe ?
Les étudiants, effectivement, chinois sont assez performants. Alors, évidemment, on sélectionne des bons étudiants. Donc, déjà, on a une bonne matière première. Ensuite, ils suivent, dans le cas de l'école centrale, mais dans d'autres formations comme à Tianjin bientôt, ils suivent une année linguistique intensive. C'est-à-dire qu'ils apprennent quand même 20 heures de français par semaine pendant un an, ce qui leur permet quand même d'être un peu dégourdis au bout d'un an. Alors les relations que nous avons avec les entreprises françaises, évidemment ça se passe en général en français, avec les personnels souvent des biculturels chinois qui sont passés déjà par des formations en France, utilisent le français. L'anglais est aussi une langue de travail communément répandue. Le chinois, nous, on a beaucoup de difficultés et je trouve que c'est un très fort avantage pour un Européen d'arriver en Chine et de parler chinois.
vous serez très respecté, vous serez très compris, et c'est un très fort avantage. Donc ça, c'est peut-être un des conseils à avoir, c'est d'utiliser soit des profils binationaux, biculturels, soit avoir soi-même un bagage en chinois pour venir travailler en Chine.
Oui, là, si on devait faire du lobbying, il serait peut-être intéressant que tous les opérateurs s'y mettent de manière à ce qu'il y ait un effort beaucoup plus fort qui soit fait pour l'apprentissage du chinois à tous les niveaux. Beaucoup y viennent actuellement. Hein. On a énormément de double cursus et de gens de polytechnique ou des gens qui sont dans l'entreprise qui apprennent le chinois, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus.
On a parlé des dimensions de production, des dimensions de marché de consommation chinois. Il y a une troisième dimension qui a été évoquée, qui est l'innovation. Comment faire en sorte, nous qui sommes essentiellement des ingénieurs dans des entreprises dont l'innovation est souvent le cœur de métier, de tirer le maximum de l'innovation entre la France et la Chine, d'éviter de devoir se battre en disant « j'ai une innovation géniale, mais mon partenaire, que ce soit le chinois ou que ce soit le français, est en train de tirer la couverture à lui » et que ce soit une véritable innovation gagnant-gagnant entre des entreprises, entre des universités et entre des pays qui peuvent asseoir là-dessus leur balance de commerce extérieur.
Qui répond ? Monsieur Lars.
Je veux bien rebondir parce que Madame Barbier parlait d'Alcatel tout à l'heure. Il me semble que Alcatel-Lucent à Shanghai est un endroit où il y a de l'innovation qui sert à la partie chinoise et à la partie française. Donc quelque part, il y a des endroits, il y a quelques hubs dans lesquels cette innovation sert tout le monde et il n'y a pas une volonté de se pirater mutuellement. J'ajouterais quelque chose d'étonnant. La Chine, le budget de la Chine de recherche au plan national est plus gros que le français, plus gros que l'allemand, bientôt rattrape l'européen. Et deux, il est mieux géré. C'est-à-dire, c'est pas le CNRS où on donne de l'argent sans charge de résultat. Le gouvernement chinois distribue ses fonds de recherche dans les 10-15 industries clés qu'il a choisies en fonction des critères de réussite. Et chose très intéressante, les firmes étrangères ou les joint ventures sont égalité avec les chinoises. Le gouvernement veut un succès en résistance des matériaux, veut un succès dans les nouvelles normes pour le téléphone mobile. Il va également financer toutes les équipes locales performantes. Donc on retombe sur le problème d'avoir un partenariat ou une joint venture ou une association. Il faut être sur place en Chine. Je ne pense pas qu'on peut essayer de travailler avec le laboratoire de recherche de ZTE à Paris. Mais bon, je crois que pour nous, Français, il faut être en Chine avec eux. Et à ce moment-là, si le partenariat est stable, on est en mesure, justement dans ces équipes mixtes, de bénéficier non seulement du financement, mais de l'opportunité d'être sur un marché très porteur dans lequel l'innovation va être testée très vite. Je pense que pour les énergies nouvelles, la Chine va être assez vite en avance par rapport, y compris à l'Allemagne. Donc si je veux être moi dans ce métier-là, il vaut mieux que je sois en Chine.
Oui, on le voit avec Sentech notamment maintenant, voilà. Qui est parmi les premiers.
Je me permettrais de reformuler de façon un petit peu différente. Il faut se faire chinois. Si on veut réussir en Chine et réussir ailleurs, il faut se faire chinois, il faut devenir chinois. Et toutes ces entreprises, effectivement, le dialogue sur l'innovation n'existe plus. Lorsqu'on s'est fait chinois, lorsque effectivement on a une présence suffisamment forte, suffisamment longue, suffisamment développée pour que ce genre de questions n'ait plus tellement de sens.
C'est une très belle explication. Je reviens à la grande consommation, je m'éloigne de la recherche, mais dans les éléments de réussite que quelqu'un citait tout à l'heure. Des firmes qui sont dans le cosmétique comme L'Oréal, elles réussissent en transférant en Chine des produits qu'elles savent vendre aux États-Unis, en Allemagne ou en France. Mais la fine pointe du succès, le shift de leur portefeuille d'activité, c'est le jour où elles vont vendre des produits faits en Chine pour des Chinois, pour le monde asiatique. Donc là, on est dans une sensibilité locale. Mais donc effectivement, on ne peut réussir qu'en étant chinois, ou alors on se cantonne à la partie luxe et on vend des valises Vuitton ou des Ferrari qu'on exporte de France, il y a pas besoin. Enfin, il faut surtout pas les fabriquer sur place. Hein. Et donc, c'est tout le choix. Par exemple, je vous donne un exemple dans le domaine des micro-ondes, dans la grande consommation. Ben, les étrangers, leur choix, c'est quoi ? Soit se replient dans l'extrême luxe, le micro-ondes, la cocotte minute la plus chère du monde, qui parle, qui fait des tas de choses. Bon, mais ça, c'est un tout petit marché. Ou alors se cantonner des quelques grands centres-villes où, ben, dans un linéaire, il y a trois marques concurrentes, donc pourquoi pas la vôtre. Ou alors s'adapter et faire des produits adaptés au moins aux 120, 150, 200 millions de Chinois. Et à nouveau, Madame rappelait les taux de croissance. C'est plus commode d'être sur un marché de 120, 150 millions d'habitants qui croît à 10% régulièrement par an, on dit depuis 10 ans, mais en fait depuis 20 ans, et il va croître encore comme ça, que de se battre sur un marché déclinant. Donc il faut être en Chine, et si on n'y était pas pour le sourcing, il faudrait y être pour le marché. Et c'est donc l'occasion formidable d'innover, parce que la concurrence est quand même beaucoup plus sévère en Chine que n'importe où ailleurs. C'est une concurrence à mort, chinois, pas chinois. Les Chinois sont aussi méchants entre eux qu'avec leurs concurrents étrangers. Hein. Donc grande bataille, mais je dirais d'une autre façon, enfin j'ajouterais à ce que dit monsieur, un, il faut être chinois, et deux, c'est en gagnant en Chine que je peux... non seulement survivre, mais gagner en Europe. Je rejoins votre argument. Il faut que je réussisse en Chine pour avoir mon rang dans le monde.
D'autres questions?
Juste un mot, si vous pouvez vous présenter avant de poser la question, ça permet à chacun de se situer.
Didier Derville de Chine Plus. Les entreprises étrangères, aujourd'hui, bénéficient-elles encore d'allègements fiscaux par rapport à leurs concurrents sur place chinois?
Allez-y, ça va venir.
C'est là, ah, d'accord, j'ai compris, merci. Donc j'ai fait allusion tout à l'heure à la nouvelle loi fiscale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui met fin... grosso modo, globalement, à la différence de traitement entre les étrangers et les Chinois. Il y avait historiquement des avantages fiscaux très importants qui étaient accordés aux investisseurs étrangers, industriels et exportateurs, qui pratiquement pouvaient d'une part avoir 2 ans d'exemption d'impôt sur les sociétés à compter de la première année bénéficiaire, puis 50% d'abattement, et s'ils exportaient plus de 70% de leur production, cet abattement de 50% était prorogeable dans le temps indéfiniment. Donc des avantages très importants qui n'existent plus. Alors la nouvelle loi, il y avait un taux, le taux à cette époque-là était de 33%, donc quelque chose qu'on connaît bien ici. La loi qui vient d'entrer en vigueur baisse le taux de droit commun, qui est maintenant de 25%, et de 25% qui s'applique indifféremment pour tout le monde, ou presque tout le monde. Tout le monde, sauf pour les entreprises qui peuvent justifier d'intervenir dans les domaines des hautes nouvelles technologies. Ça n'est pas accordé, ça n'est pas un label qui est accordé facilement. Il y a un examen très sérieux de la chose pour vérifier si une entreprise peut bénéficier du taux préférentiel, qui est alors de 15%. Mais l'avantage n'est plus lié à la nationalité de l'investisseur. Il est lié à la qualité d'entreprise innovante, technologiquement innovante ou non, qu'elle soit chinoise ou étrangère. Pourquoi tout à l'heure je disais presque? Parce qu'il existe encore un domaine dans lequel les investissements étrangers bénéficient d'un avantage. Ce sont les investissements au centre et à l'ouest de la Chine. Pourquoi? Parce que ça fait des années que le gouvernement chinois se gratte la tête en essayant de faire en sorte que cette manne des investissements étrangers, qui se déverse aujourd'hui à 90% sur la bande côtière, elle se déverse un peu ailleurs. Et il faut dire que pour l'instant, ces politiques incitatives n'ont eu, je crois qu'on peut le dire, aucun ou pas beaucoup de succès, quasiment pas de succès. Donc il y a toujours aujourd'hui, pour ceux qui vont au centre ou à l'ouest et qui sont prêts à y investir, des avantages spécifiques et qui est également lié à leur statut d'étranger. Voilà.
Pour connaître qu'avant que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, les avantages qui étaient octroyés aux étrangers passaient très mal auprès des entreprises chinoises.
Alors voilà, en fait... Depuis l'accession de la Chine à l'OMC a sonné le glas de cette politique différenciée. Et dès 2001, on a commencé à parler de cette réforme fiscale. Elle a mis beaucoup de temps à être promulguée, mais elle était dans les tuyaux pour qu'il y ait égalité de traitement. Et effectivement, les industriels chinois ne manquaient pas de souligner la distorsion de concurrence. Bon, ils profitent, eux, ça a été évoqué par M. Larson, d'autres formes de tolérance. Il faut dire aussi, beaucoup de gens ont vu cette loi fiscale en disant « Ah ben, c'est beaucoup moins intéressant maintenant ». Ça dépend. C'est moins intéressant, effectivement, fiscalement pour les industriels. Mais aujourd'hui, énormément d'étrangers investissent en Chine pour y créer des structures de commerce ou des structures de services qui, elles, ne bénéficiaient pas des avantages fiscaux et qui étaient fiscalisées à 33%. Aujourd'hui, elles le sont à 25%. Donc pour une structure de services, par exemple, cette nouvelle réglementation, en réalité, est un progrès.
Monsieur Larson.
Je reviens à l'Ouest. Effectivement, donc le gouvernement, il est désespéré parce que l'argent ne va pas spontanément à l'Ouest. Donc il fait tout, il crée des zones économiques spéciales, il donne des incentives et il fait une chose intéressante. Vous savez qu'en Russie, on est passé du communisme à l'économie de marché en un jour, d'une manière catastrophique, mais instantanément on a voulu tout privatiser. La Chine fait l'inverse. Alors maintenant, regardons ces deux idées, un processus de privatisation lent et ce qui se passe dans les province de l'Ouest, par exemple à Chengdu. En ce moment, le gouvernement, chaque mois, met sur le marché, privatise, transforme, restructure, en un sens, veut se débarrasser d'une structure autrefois publique, d'une entreprise moyenne, 200, 500, 1000 personnes, 20, 30, 40, 50, et ne cherche pas preneur. Donc je rajoute ça à notre catalogue d'entrées possibles en Chine. Un, aller à l'Ouest, et deux, faire du shopping et prendre le contrôle d'une entreprise chinoise existante. Donc c'est une autre façon de devenir chinois encore plus vite, en achetant un chinois qui est là. Et là, comment va être le jugement du gouvernement qui est autour là, de la province? Il va juste vous juger sur vos résultats. Si vous sauvez l'entreprise parce que vous injectez une technologie nouvelle, parce que vous avez un savoir-faire différent, eh bien vous aurez toutes les bénédictions pour grossir les financements, les prêts, hein, puisque en quelque sorte, vous êtes dans le droit fil. Oui, c'est très curieux, c'est de la co-stratégie. Vous tombez dans le droit fil des besoins, de la volonté puissante du gouvernement chinois, on veut faire ça. Et vous, vous êtes un agent, un petit poisson qui va dans le même sens. Et vous avez là toutes les bénédictions, pas de bagarre, pas de problème au tribunal. Vous serez sauvé. Donc, possibilité de shopping à l'Ouest.
Attention, je sais que c'est fini, mais attention quand même à l'acquisition. C'est-à-dire qu'on est dans un... C'est vrai, c'est une formule qui est de plus en plus à la mode, qui juridiquement est de mieux en mieux encadrée, mais vous n'êtes pas dans un pays en Chine qui a une tradition de grande transparence comptable. Vous aurez quand même beaucoup de difficultés comprendre exactement l'ampleur du passif que vous achetez avec la personne morale dont vous accédez, dont vous allez détenir. Donc attention, il faut être prêt. Il faut avoir la capacité de digérer quelques cadavres dans les placards que vous ne manquerez pas de découvrir.
Écoutez, je vous remercie pour ces interventions. Lisez la revue, simplement pour clôturer sur ce sujet, lisez la revue. Vous avez énormément d'articles qui traitent de ce sujet-là, en particulier sur Olivier Lefebvre. Merci à nos 5 intervenants.